Bonjour à tous et à toutes dans ce psychodébat aujourd'hui, l'émission où on explore des sujets de société qui nous touchent, nous bousculent parfois et nous invitent à réfléchir autrement. Ici on discute et on donne la parole à tout le monde, et surtout à vous. Vous pouvez nous appeler au 04 91 08 28 15. Et aujourd'hui on va parler des réseaux sociaux, mais notamment de l'image qu'on montre, celle qu'on croit devoir renvoyer, les comparaisons, les influences et tout ce que cela nous déclenche en nous. Et autour de la table, je vais avoir Marie.
Bonjour.
Sarah.
Bonjour.
Et Aboria.
Bonjour.
Déjà j'aimerais... Qu'est-ce que vous pensez de votre présence sur les réseaux sociaux pour commencer ce sujet ? Qu'est-ce que vous pensez de votre présence sur les réseaux sociaux en termes général ?
Je dirais que je suis beaucoup une très passive. Je poste peu, je poste surtout en story, mais je regarde plus qu'autre chose. Et j'ai beaucoup diminué ma présence en mon image. Je la mets très peu maintenant, alors qu'avant oui.
Bah, moi, c'est un peu pareil. En grandissant, j'ai diminué mon exposition sur les réseaux sociaux. C'est surtout resté au niveau des stories, plus que des publications. Mais je suis quand même très présente pour voir ce que les autres font. Donc, ouais, on a introduit un petit premier mot sur qu'est-ce que c'est notre présence sur les réseaux sociaux. Mais déjà, j'aimerais savoir l'image qu'on montre et ce qu'on renvoie dans un premier temps. Est-ce que ça te parle, Marie ?
Oui, parce que de nos jours, à l'heure actuelle, il y a ce qu'on est, notre identité pure, réelle, et ce qu'on choisit de montrer. Avant, c'est ce qu'on choisit de montrer à d'autres personnes dans la vraie vie, parce que quand on parle même à un ami ou à quelqu'un, on va montrer une partie de nous et pas tout. Et dans les réseaux sociaux, c'est accentué parce que il y a aussi toutes les questions de comportements sociaux, de morale de la société qui vient se jouer, des traînes et tout, et qui du coup, et je trouve cette image de soi est encore plus amplifiée au sein des réseaux sociaux.
Et vous, en régie, qu'est-ce que vous pensez de l'image qu'on montre sur les réseaux sociaux ?
Alors, je pense que elle est très dépendante déjà de la personne et de ce qu'on comment on visionne. Elle est très différente de comment déjà on visionne son image de soi à la base hors réseau, et elle peut être très faussée, et il peut avoir un écart entre la réalité et ce qu'on veut présenter, parce que c'est un peu une représentation, et donc il y a une facilité à gommer ce qu'on veut pas montrer, et un choix aussi très sélectif. Je pense que les gens, même quand on a l'impression d'avoir une personne qui est authentique, il y a quand même un truc de mise en scène, parce que vouloir se montrer sur les réseaux sociaux, il y a quand même cette histoire de un peu spectacle, enfin montrer ce qui se passe, et une image figée, c'est jamais, ou alors même en mouvement, mais c'est un instant et c'est pas tout ce qui se passe dans la réalité. Donc je pense que ça peut être un reflet de la réalité, mais ça pourrait jamais être 100% authentique que être filmé 24h sur 24, par exemple. Et toi, Brian ?
Alors, l'image de soi qui peut être renvoyée sur les réseaux sociaux, donc je pense que, comme l'a dit Sarah, ça va être très personne dépendant, et au fur et à mesure des années, il y a quand même beaucoup plus de jugement, et le jugement a toujours existé vis-à-vis des personnes qui s'exposent sur les réseaux. Mais on remarque que c'est beaucoup plus appuyé, et on s'attarde sur des choses parfois très futiles. Donc les gens vont plus oser montrer leur personnalité, et donc ils vont se donner une image malgré leur volonté, en fait, juste pour ne pas être embêtés. Donc c'est bien d'un côté, dans le sens où on peut partager à travers les réseaux, mais si c'est pour partager et ne pas pouvoir être soi-même, quel est l'intérêt au final ?
Très bien, oui, il y a tout ce sujet de postable ou pas postable. Et toi, Asya, là-dessus, est-ce que tu as une idée de l'image qu'on revoit sur les réseaux sociaux, justement ?
Je pense que les réseaux sociaux, c'est ambivalent. Ça peut être les deux extrêmes. D'un côté, on peut avoir des personnes qui, comme vous l'avez dit, en fait, ont tellement le besoin d'afficher une certaine image qu'ils ne seront pas du tout eux-mêmes. Et de l'autre, on a des personnes qui, en fait, n'arrivent à être eux-mêmes finalement que parfois sur les réseaux sociaux. Je pense, je sais pas si c'est ça le nom, mais par exemple, les personnes qui ont un style un peu alternatif, la communauté alternative, c'est des personnes qui, par exemple, quand ils étaient au collège ou au lycée, avaient peut-être du mal à afficher leur style vraiment, et qui, en s'affichant sur les réseaux, ont pu trouver des personnes qui étaient exactement comme eux. Et donc, de cette manière-là, ben, ça leur a permis de se rapprocher de personnes, en fait, de finalement être eux-mêmes d'une manière où ils n'auraient pas pu l'être en société. Et ça, je pense qu'il y a plein d'exemples. En fait, les réseaux, c'est très compliqué comme sujet parce que, d'un côté, on a des personnes qui se perdent un peu dans le jeu des réseaux sociaux et qui perdent un peu leur identité, et d'autres qui se trouvent uniquement là-dedans et qui, au contraire, dans la vraie vie, ne sont pas complètement eux-mêmes. Et voilà.
Je suis un peu d'accord avec tout ce que vous avez dit, les filles, autour de la table. Il y a tout ce jeu de l'identité de la personne qui rentre en compte et de qu'est-ce que je poste ou pas. Et surtout, moi, j'aimerais savoir si vous, autour de la table, vous avez ces critères de qu'est-ce qui est postable ou non sur des réseaux sociaux personnels ou autres.
Qu'est-ce qui est postable, c'est tout peut être posté techniquement, dépendant de comment on peut gérer la réponse à ce que l'on poste. Après, on peut poster tout, mais aussi des choses bien sûr interdites. Donc, on peut pas bien sûr poster des, je sais pas, des corps, des crimes comme ça. Ça serait quand même bon. Déjà, normalement, il y a les guidelines des réseaux, mais c'est aussi voilà, ça c'est tout très répréhensible. Mais après, on peut voir vraiment beaucoup de choses postées, même des choses qui pour nous sont très bizarres, mais que pour d'autres gens sont normaux. Donc, c'est dur de hors tout ce qui est crime et tout, de dire qu'est-ce qui peut ou ne peut pas être posté.
Vous avez un autre avis là-dessus?
Je sais pas si c'est un autre avis, je pense que ça appuierait ce qu'elle dit.
Oui.
Hormis le répréhensible et pénalement, je pense que ça c'est, même si la loi est mouvante selon aussi les mœurs et les idées des gens, mais je pense qu'il y a ce danger de... Il y a des choses qui sont autorisées, mais où on devrait être plus vigilant. Je pense, par exemple, dans le jeu des réseaux, on a le fait de publier des enfants.
Mm-hmm. Oui,
je trouve que ça peut être très dangereux quand c'est un peu, et on se rend pas compte qu'on le jette en pâture son enfant sur la place publique parce que c'est pas le même impact. Enfin, t'éteins ton téléphone et ça n'existe plus, mais l'image existe quand même. Donc, il y a toute cette histoire de consentement de l'enfant, détournement des images aussi. Ben, ça peut être une image très innocente. Et je pense que la question se pose encore plus de nos jours avec l'IA. Donc l'utilisation de l'image, pas forcément un peu copyrightée. Et on se retrouve avec des cas de plus en plus bizarres et de choses qui deviennent... Parce qu'on arrive à détecter l'IA maintenant, mais plus elle avance et plus ça devient indétectable. Donc ça joue sur une ligne où, ben, quand on reste dans la limite de la légalité, est-ce qu'on peut tout poster, mais c'est aussi exposé à des risques qui sont pas forcément ceux qu'on a choisis. Donc c'est un peu ça. Je pense qu'il y a un truc un peu ambivalent dans poster ou pas poster.
Oui, je vois tout à fait. Et Asia, ou t'as un avis là-dessus?
Oui, moi ça me fait. Je pense que c'est peut-être un peu personnel. Moi, ça me fait un peu peur la surexposition sur les réseaux. Dans le sens où, pour moi, c'est y a beaucoup de points positifs sur les réseaux sociaux et on peut partager un peu de soi, etc. Mais quand ça rentre dans le trop personnel, pour moi, ça en devient presque dangereux finalement de trop exposer de soi, de trop exposer de sa vie, etc. Y a beaucoup d'exemples d'influenceurs qui finalement se sont perdus un peu dans ce jeu-là, mm-hmm. parce qu'ils ont tellement donné trop d'informations sur leur vie. Parfois en venir à montrer des courriers, des choses très personnelles, des événements très personnels qui se sont passés, et au point où ce sont leurs propres fans qui ont dû leur dire bon ben on n'a peut-être pas besoin parfois de tout montrer entre guillemets. Et moi c'est quelque chose que j'applique aussi du coup à mes propres réseaux entre guillemets. J'aime bien raconter quelques anecdotes de temps en temps, etc. Mais je préfère ne pas rentrer dans le trop personnel parce que ben le problème des réseaux, entre guillemets, c'est à la fois le point positif, mais aussi le point négatif, c'est que tout le monde, enfin, selon comment on paramètre son compte, entre guillemets, tout le monde peut voir. Mais de l'autre côté, ça veut aussi dire que n'importe qui peut voir et entendre, etc. Donc pour moi, il faut faire assez attention à ce qu'on poste. C'est bien de partager de soi, etc. Mais parfois, il y a des choses qui sont personnelles, qui auraient dû le rester, et qui au final, parfois, même se retournent contre la personne qui l'a posté, parce que ça devient des arguments d'attaque par certaines personnes, etc. Donc c'est bien parfois pour moi de garder un petit peu de distance. Donc quand je me pose la question de est-ce que je vais poster ça ou ça, je me pose toujours la question de est-ce que ça finalement je devrais pas le garder dans mon téléphone, est-ce que c'est pas trop personnel, etc. Voilà, c'est...
Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Oui, il y a toute cette réflexion de qu'est-ce qui peut rester à jamais sur la toile ou pas. Alors, la toile, j'ai l'impression d'être très bien du sens ce mot-là. Et toi, Boria, qu'est-ce que tu penses là-dessus, ce qui est postable ou pas postable?
Comme Marie l'a dit au début, en soi, tout est postable. Après, je pense qu'il faut aussi prendre en compte l'audience qu'on vise, donc qui est notre public au final. Donc si on est une personnalité, qu'on est en public et qu'on a un public assez jeune, donc faire attention à ce qu'on peut dire. Si c'est une personne qui est dans la vingtaine, dans la trentaine, elle peut pas avoir un discours comme si elle parlait à des personnes de son âge, alors si son public a en moyenne 15 ans. Et notamment aussi, par exemple, on a eu le cas du skinny talk, donc je sais pas si vous en avez entendu parler. Donc en soi, les personnes sont libres de faire ce qu'elles veulent et de dire ce qu'elles veulent, sauf que déjà c'était pas mal présent sur TikTok, sachant que TikTok c'est un algorithme, tout le monde peut tomber sur un peu tout type de vidéos, et ça peut tomber sur des très jeunes. Et à l'heure actuelle, il y a beaucoup de personnes justement qui parlent du problème des TCA et qui essaient justement d'encourager les gens à se soigner, à y remédier. Donc c'est un peu un retour un petit peu en arrière, on va dire.
Ok, oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et j'avais une petite question peut-être personnelle à vous poser. Est-ce que vous avez déjà supprimé un post, qu'importe, par manque de likes, par ego? Tout à fait. Oui. Que ce soit sur Facebook ou quoi, à l'époque, des chaînes où c'était vachement quelque chose, like et je te republie ou je te dis une vérité.
Alors, moi, j'avais tellement peu d'abonnés que... Dans tous les cas, les likes, c'est pas ce qu'allait me faire supprimer. Donc,
honnêtement, genre, j'ai des vidéos qui ont eu pas mal de vues, d'autres qui ont eu pas mal de likes. Et quand il y a 3 likes, si je suis satisfait de la vidéo, ça m'a jamais affecté. Après, je comprends que, enfin, il y a un truc de dopamine, de recevoir des notifications, etc. Donc, je peux comprendre que cet aspect-là. Mais j'avoue que moi, enfin, mes réseaux, en plus, moi, ils sont en public pour la plupart. Mais mes réseaux, c'est vraiment genre la vitrine que je me crée à moi-même. Mais genre, il y a des trucs que je regarde en me disant, ah, c'était drôle, ça. Et donc, si ils vivent, c'est que moi. Parfois même il y a des moments, des phases de ma vie où je remets en privé, etc. Mais c'est parce que genre il y a un truc de satisfaction de ce que j'ai produit. Et après, si les 2 likes c'est moi et ma copine, je suis contente que ma copine elle ait bien aimé. Enfin, genre.
Oui, je vois.
Moi personnellement, je partage pas du tout cet avis.
il faut aller bien.
C'est pas que je suis pas d'accord, c'est plutôt que moi j'ai eu l'expérience un peu inverse de. Même par exemple les messages qu'on envoie sur des groupes de classe, des groupes où il y a les collègues, etc. Et où le message il a été ignoré, ou alors j'ai fait la blague de ma vie et il y a deux j'aime sur le message, etc. Je vais peut-être pas le supprimer parce que je me dis c'est trop tard, il y a 2 personnes qui l'ont vu donc ils sauront que je l'ai supprimé. Mais je vivrai avec la honte pendant quelques heures de ce message qui a flop. Et je sais qu'il faut pas, hein, mais je vais des fois j'y repense et tout en mode oh là là. Est-ce qu'ils ils ont dû voir le message, ils ont dû se dire la honte, personne réagit et tout. Alors que c'est pas la honte, j'ai juste fait une petite blague et ça n'a pas marché, c'est pas grave. Et en plus, des fois, la personne d'après envoie un message qui a plus de succès que le mien. En rebondissant sur ce que j'ai dit, moi, à ce moment-là, pour moi, c'est la honte, mais il n'y a rien de honteux là-dedans. En plus, là, du coup, quand on parle des réseaux, on parle des applis et tout. Moi, à l'époque où j'étais adolescente, j'avais un blog. Et à l'ancienne ça. Et du coup, quand je voyais qu'il y avait pas beaucoup d'interactions, je me disais oh là là, il faut que je fasse quelque chose. Et du coup, je réactualisais pour en mode ah, vous avez dû le rater, je vous le remets, etc. Donc je peux comprendre la pression de tous les performeurs d'internet qui, enfin, je parle des petits, pas des vrais, mais qui ont ce besoin de voir les likes, etc. Parce que si t'as voulu communiquer avec certaines personnes, tu te dis bon, peut-être d'habitude j'ai un peu plus de réaction, peut-être que là j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas, ou peut-être que là le ton c'est pas transmis comme ça devrait, comme ça aurait été le cas dans la vraie vie.
Mais ouais, je suis un peu du même avis que toi, enfin, surtout avant, mes messages, si ça flopait ou si mes posts flopaient, que j'avais pas le même nombre de j'aime que d'habitude, je supprimais directement ou j'archivais et je la remettais après avec une republication. Vous avez peut-être vu passer l'information, mais peut-être pas assez pour interagir, donc vous la revoyez.
Et puis je t'ai dit qu'ils n'étaient pas prêts à ce moment-là encore à recevoir l'information.
Mais bon, maintenant ça s'est un peu calmé, mais oui, j'ai déjà supprimé des posts par manque de likes. Et toi, Marie, est-ce que tu étais dans cette boucle ou pas du tout ?
J'ai été, quand j'ai commencé Instagram sur poster mes photos, parce que je fais de la photographie en noir et blanc, et des fois, je la postais un moment. En plus, comme je fais que l'étranger, avec des fuseaux horaires différents, c'était dur de me dire, est-ce que je poste pour mon public, de dire mes quelques abonnés qui sont majoritairement en France ou sur le fuseau horaire de là où je vivais. Et du coup, des fois, quand je postais, j'avais pas beaucoup de likes, je supprimais, postais plus tard ou j'oubliais simplement. Mais oui, ça m'est arrivé au tout début, surtout d'être en mode oui, je vais supprimer, j'ai pas beaucoup de likes. Mais maintenant, je le fais plus parce que de toute façon, je me poste quasiment plus. Et en fait, j'essaie de m'en éloigner parce que justement, j'ai senti que les likes étaient un peu trop importants et j'ai senti que c'était vraiment toxique.
Ouais.
Donc j'ai dit. J'apprends à ne plus
en prendre compte.
C'est ça.
Oui, mais vous voyez, pour une fois qu'on a des avis différents sur la table, c'est rare. Mais maintenant qu'on a parlé de ce qu'on montre, parlons de ce qu'on pense devoir montrer aux yeux de la société via les réseaux sociaux, parce qu'on a quand même une pression constante liée à ça, même si on s'en rend pas compte forcément. Et pour ça, il y a cette fameuse image idéale qu'on parle. De la femme parfaite, de l'homme parfait, du poste parfait qui rentre en compte. Et on a des attentes sur ce qu'on peut poster ou non. Et j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous pensez que c'est dicté par certaines tendances ou influenceurs ou les attentes du public en règle générale ? Sur quoi est-ce que nos attentes de poste, nos critères de poste, du coup, de ce qu'on doit montrer, est basé ? Si on doit suivre les trends absolument ou pas ?
Moi, je pense que c'est un mélange du moment, donc les trends, et aussi de critères sociaux qui sont extérieurs aux réseaux sociaux. Par exemple, pour la femme, sur les posts sur soi-même, sur quand on poste des selfies ou des photos de soi, que ce soit au niveau tout ce qui est healthy ou sport ou juste beauté, ils vont répondre à des critères de beauté féminin, souvent majoritairement quand même pour les mainstream. Très cadré, donc fin, maigre, pas trop musclé, blanc. C'est souvent des personnes blanches quand même qui sont le plus montrées sur les réseaux sociaux, toujours de nos jours. Et aussi, ça va répondre aux trends. Je suis un peu une vieille personne, du coup, je ne pourrais même pas vous citer une trend. Bon, le skinny talk, par exemple, voilà, ce serait de se montrer à quel point on est maigre, on correspond à cette esthétique-là, qui, du coup, à la fois aussi, dans cette trend-là, correspond aussi à des critères, à des normes de beauté aussi extérieures et patriarcaux ancrées avant. Mélange des deux, quoi.
Un autre avis ?
Moi, je pense qu'il y a. Il y a cette idée aussi de devoir absolument rendre un truc parfait. Comme je disais, c'est un peu une vitrine, donc on essaye de rendre le truc le plus lisse possible. Je pense que le plus grand représentatif qu'il y a dans la plupart des réseaux sociaux, c'est le filtre qui essaye de rendre le truc le plus parfait. Moi, je sais que en regardant mes photos des années précédentes, j'ai dû me rendre compte qu'il y a des années où je me retrouvais avec des photos qu'avec des filtres. Et j'étais en mode je ne peux plus prendre une photo sans mettre de filtre. C'était il y a plusieurs années, mais du coup j'ai fait une espèce de cure pendant plusieurs mois où je ne m'autorisais pas le filtre. Maintenant j'en mets plus ou moins, mais c'est même en général je mets des filtres qui me rendent ma tête un peu déformée et moche. C'est ce que je suis. Bref, mais ça c'est une autre histoire. Mais du coup j'ai dû réapprendre à regarder mon visage déjà, et j'ai commencé à prendre des selfies même parfois pour pas les poster, mais juste pour me réadapter à mon visage. C'était très bizarre. Mais parce que, genre, une photo de moi, c'était pas pensable sans filtre. Et il y avait ce truc aussi, ben oui, de correspondre à une idée. Donc, je pense que c'est une idée qui est un reflet de ce qui se passe dans la société et donc qui s'accentue ou pas dans les réseaux. Et correspondre à la glorie, donc vouloir faire des trends, ben, on sait qu'en suivant une trend, on sera plus facilement dans les feeds des gens, donc il y aura plus facilement d'interactions, plus facilement les gens qui en parlent. Enfin, ce que font les influenceurs se retransmet aussi même dans des sphères un peu plus privées. Et après, on se rend pas forcément compte de l'impact qu'on peut avoir en faisant des trucs assez naturels et simples pour certains, mais que ça rend une norme à suivre. Et ne pas posséder de cette manière-là, c'est limite s'écarter d'un groupe, en fait. Donc ça devient compliqué d'être dans un réseau social. Toi, t'en penses quoi, Bria? T'as quoi comme avis?
Alors moi, je pense que déjà, faut dissocier du coup deux cas. Ben, par exemple, un cas d'une personne qui n'est pas vraiment influenceur, mais qui poste sur les réseaux, qui n'a pas une grande communauté, mais qui poste vraiment pour le plaisir. Et un influenceur qui va vraiment avoir une communauté, beaucoup d'abonnés, etc. Et en fait, dans le cas où on va avoir beaucoup d'abonnés, donc les abonnés vont se dire, oui, il faut que la personne elle soit naturelle, il faut qu'elle se montre comme elle est, il ne faut pas qu'elle fasse semblant, sauf que souvent, on l'a vu, hein, et surtout, malheureusement, souvent, quand c'est des femmes qui se montrent comme elles sont au quotidien, elles vont souvent avoir des critiques. Ah, mais tu pourrais faire un effort. Ah, mais si. Ah, mais quand même, tu es sur Internet. Tu dois te tenir comme ça. Tu dois t'habiller comme ça. Tu dois te maquiller comme ça. Tu dois te coiffer comme ça. Donc, au final, les gens se plaignent que, voilà, les réseaux, c'est fake. Mais en fait, le public encourage justement à être fake et empêche les gens de vraiment être eux-mêmes au final. Et après, je pense quand même qu'il y a aussi une part. Donc, comme je disais qu'il fallait dissocier, donc on va dire une personne lambda qui n'a pas forcément des abonnés, mais qui a surtout des amis, des connaissances sur les réseaux. Il y a une partie des gens qui va se restreindre à ne pas poster certaines choses par peur d'être jugé, mais au final, la plupart du temps, on se préoccupe pas de ce que postent les gens en réalité, donc c'est surtout dans notre tête à nous, on se met des limites et on se met des contraintes qui au final parfois n'ont pas lieu d'être.
Et toi, Sia, là-dessus?
Je suis assez d'accord avec ce que tout le monde a dit. Je pense que en fait, la plupart des personnes, ce qu'on va poster en public, ça va être une image très, je sais pas c'est quoi le mot exact, mais une image très millimétrée en fait.
Yes.
Voilà, exactement, des images, enfin des photos qu'on sait qui vont faire à peu près l'unanimité, qui vont correspondre un petit peu à ce qui est posté un petit peu partout. Voilà, si je poste une image avec ma tête, ben je sais que ce sera une image qui me met en valeur, une photo de moi comme peut-être je vais en prendre une fois tous les 6 mois, et là c'est bon, elle est sortie comme il faut, et je peux la poster, etc. Et je pense que c'est le cas de la plupart des personnes, mais que là où on va voir un petit peu des images un peu plus personnalisées, enfin quelque chose qui nous ressemble plus, ça va peut-être être dans les stories privées ou dans les conversations privées qu'on a. En fait, l'espace où on permet uniquement aux personnes les plus proches de nous de nous voir comment on est réellement. Et là, à ce moment-là, ben on le voit quand on scrolle et quand on ouvre les stories privées des uns et des autres, ben c'est pas les mêmes photos qu'on voit, etc. Donc on a cette image lisse pour ceux qui sont les moins proches de nous et ceux à qui on a envie de montrer plus parce qu'on sait qu'ils vont pas être dans la critique comme Agia Boiria, qu'ils vont pas être dans le « Oh ben alors qu'est-ce qui t'est arrivé aujourd'hui? Tu as l'air fatigué », des choses comme ça. Moi je préfère ce côté-là, plus les réseaux sociaux plutôt que le général.
Ok, oui, je vois, oui. Il y a un peu ce standard de beauté et d'image qu'on doit renvoyer au public plus général pour plaire le plus, ce qui nous met une certaine pression, qui peut être inconsciente ou non, comme vous l'avez toutes dit, qu'on n'a pas dans nos stories privées, comme l'a très bien dit Asia. Mais il y a aussi ce truc de comparaison avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et qu'on veut reproduire ce que les autres font parce que ça marche. Moi, c'est ce que je ressens sur les réseaux et dans ce que je poste ou pas, c'est vraiment de la comparaison et de si j'ai aussi bien fait qu'eux ou non. Et vraiment, ça fait que parfois, il y a quand même des attentes irréalisables et irréalistes qu'on peut pas faire à notre échelle parce qu'on a juste pas le même matériel pour poster et partager sur les réseaux sociaux. Donc, ça a un certain impact mental qu'on verra juste après la pause musicale. Et n'hésitez pas à nous appeler si vous avez des témoignages ou des questions à nous poser au 04 91 08 28 10. Et on a choisi pour la pause musicale la musique You End de Ariana Grande. La musique qui se rentre totalement avec l'actualité. Avec le film Wicked 2, du coup, qui est sorti récemment, avec l'acceptation de soi et que les différences ne veut pas dire incapable. Si quelqu'un d'autre a un mot sur cette musique en plus, par rapport à l'actualité et à l'image de soi.
Ouais, mais Ariana Grande, je trouve que Yes and, c'est un peu un message de oui et. c'est un peu différent de... Enfin, c'est une manière un peu de se libérer de, du regard des autres, parce que c'est un peu ça, la problématique des réseaux sociaux, c'est qu'on expose son image, sa pensée. Parfois, c'est même on parle pas forcément de photos. Parfois, c'est même juste une idée écrite, mais c'est exposer vraiment sa pensée face aux autres. Et je pense que Yes And, ça explique un peu, ça exprime un peu une liberté de penser et de dire et alors quoi.
Oui, tout est dans le titre, c'est comme ça, et puis je te l'impose, et puis voilà, c'est pas moi qui va m'adapter à toi, mais plutôt toi qui va consommer mon contenu.
Oui,
c'est ça. Surtout venant de Ariana Grande, qui du coup a beaucoup un historique d'une relation compliquée avec ses fans, qui vont réagir à tout ce qu'elle fait, dit, etc., comme s'ils pouvaient dicter. Ouais. Finalement, tout ce qu'elle va poster et tout ce qu'elle affiche à chaque moment.
Et tout ce qui se passe sur son image, son physique avec Wicked, avec aussi Cynthia Erivo, là, Michelle Yeoh, où elles sont super maigres, alors qu'avant elles avaient plus de chair. Et du coup, elles sont encore observées et tous leurs gestes. Cynthia Erivo, à chaque fois, elle devient un mème. Donc, à chaque fois, c'est discuté. Donc, il y a aussi tout ce truc autour de Wicked qui a l'air encore plus amplifié ce dont tu parlais, des fans qui scrutent et disent tout ce qu'ils veulent, qui jugent cette femme et ces femmes.
Surtout que le message du film. Mais surtout que le message du film, à la base, c'est les images sont parfois trompeuses et on n'a pas les bons et les gentils à la même place. Oui, mais bon, on va lancer la musique.
Lançons la musique.
Let's go.
On pourrait en parler très longtemps sinon.
Oh yeah, real exclusive. Typical Ari.
You know, I think I liked it better when her ponytail was a few centimeters higher.
Right. And I mean, who cares? She's happy. I don't want happy. I want art.
I miss the old Ari. You know, the singer.
You don't say. I hear she's starting her own artisanal hummus line next.
Oh my god, did she really do that?
Well, I read it on the internet, so it must be true.
Well, it must be.
Thank you.
Retour à l'antenne. N'hésitez pas à nous contacter au 04 91 08 28 10 si vous voulez interagir avec nous ou parler tout simplement de ce sujet avec nous, nous poser des questions. Donc, comme je le disais précédemment, on va parler de l'impact mental que les réseaux ont sur les jeunes, plus particulièrement parce qu'on est toutes et tous jeunes autour de cette table. Moi, j'aimerais savoir dans un premier temps... Même si les réseaux sociaux peuvent avoir plein d'aspirations, est-ce que ça a un impact mental sur votre estime de soi ? Est-ce que c'est déjà arrivé que les réseaux vous ont fait douter de vous-même, que ce soit physiquement, mentalement ou dans le cadre de vie ?
Moi, je pense que le côté, à un moment, esthétique avec un C, je pense que ça a eu quand même son emprise sur moi. Quand je voyais les personnes acheter... des objets dans des emballages et les sortir et les mettre dans d'autres emballages, je me suis dit waouh, il y a vraiment une idée de fou là-dedans. Et oui, ça a eu beaucoup une emprise financière sur moi aussi. Je pense qu'il y a ce côté des réseaux aussi que finalement si je suis sur mon canapé, j'aurais pas autant d'idées de choses à acheter. Et quand je tombe sur ces vidéos de unboxing, je range mon frigo, ce genre de choses, je commence à me dire mais comment j'ai pu vivre sans. Et après les avoir tous achetés, je me rends compte qu'en fait je pouvais vivre sans. Finalement c'est même pas vraiment utilisé et mon frigo n'est pas mieux rangé. Mais sur le coup, en voyant les vidéos, je me disais mais il faut trop que je vive comme ça en fait. Qu'est-ce que j'ai raté? Il faut que j'ai une lumière colorée dans ma chambre, il faut que je vive ma vie en pastel. Et ça a pu parfois m'être utile. Et à d'autres moments, en fait, je me rendais pas compte que j'étais en train de tomber juste dans... Ah, c'était une trend, en fait. Et là, maintenant, je le vois plus autant. Et du coup, j'ai plus autant envie d'être dans ce mood-là. Et donc, acheter beaucoup de choses pour pas grand-chose. Je pense que c'est aussi un effet secondaire des réseaux aussi, ce côté... ce côté sur consommation où on l'a vu, il nous faut et au final je l'ai eu. Maintenant je suis passée à autre chose. Qu'est-ce que je fais de cet objet là et jusqu'à ce que je tombe dans la prochaine trend. Moi je tombe beaucoup dans les pièges comme ça.
Mais du coup t'as eu un impact moral dans le sens où t'as eu c'est une création d'envie d'avoir un objet en particulier, donc que t'étais focus là-dessus. Et après t'as eu ta dose d'endorphine et t'étais en mode je l'ai, qu'est-ce que j'en fais ? C'est bien ça ?
Oui, voilà.
Ouais, donc t'as eu cet impact.
Il y a ce côté un petit peu tomber dans le piège un peu parfois de toutes ces trends et de toutes ces choses-là. Après, sur le côté moral, sur l'impact moral, moi je pense pas l'avoir trop eu. Même si, peut-être si on pense à l'image qu'on a de soi, quand on voit le même type de visage, le même type de corps, ça va nous faire nous comparer. Mais finalement, peut-être moi en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Quand je risquais le plus de tomber là-dedans, c'était quand j'étais ado. Et à ce moment-là, c'était dans les médias traditionnels que j'avais cette comparaison avec moi-même. Okay. Donc, s'il y a un média, en fait, qui, dans tous les cas, est suivi beaucoup par les jeunes, on va forcément se comparer à ce qu'on voit. Et ce média-là, il sera toujours dominé par ce dont tu parlais tout à l'heure, Marie, les normes, etc. Et donc, on aura toujours quelque chose à quoi se comparer. Peut-être que même les réseaux, comparés à des médias plus traditionnels, ça donne plus de contre-pouvoir. Enfin, il y a peut-être la trend. C'est comment ça s'appelle, Skinny Talk. Mais il y a aussi les trends de body positive qui ont représenté des corps qui n'avaient pas été représentés jusque-là. Ça donne de la voix à peu près tout le monde, même s'il y a toujours des voix dominantes. Donc, Je pense que ça peut être contrebalancé, mais c'est peut-être parce que quand on était ado, entre guillemets, c'était pas les mêmes réseaux qui dominaient notre, notre morale. Peut-être que c'est un peu plus fort chez les jeunes qui sont en ce moment en train de vivre toute cette nouvelle génération d'influenceurs, etc. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, les filles.
Et vous, les filles, Marie, Sarah ou...
Aboria.
Moi, j'ai eu, quand j'ai commencé Instagram, je postais des, bon, surtout en story, des selfies. J'ai posté aussi en permanent quelques photos de moi. Et bon, moi, mon image de soi, le problème avec, ça date de bien avant les réseaux sociaux. C'est pas ça qui a commencé. Mais du coup, des fois, je regardais c'est ce que je postais et j'aimais pas ce que je voyais. J'ai utilisé les filtres comme Sarah et tout pour essayer de me mettre plus belle, entre guillemets, ou de cacher ce que j'aimais pas, ce que moi je voyais. Mais j'ai, comme je redis, je suis une vieille, je n'ai jamais vraiment suivi d'influenceur, du coup, et je n'ai pas eu sur mon feed toutes les corps de femmes minces, parce que moi c'est par rapport à ça, gros mince, qui que beaucoup de mon image a souvent reposé, mon problème d'image a souvent reposé, et du coup j'avais j'ai eu moins ce côté comparaison, je l'ai eu ailleurs que dans les réseaux sociaux, en fait je l'ai pu avoir avec dans les films, dans les séries, avec les stars, plus que les influenceurs sur les réseaux sociaux. Oui. En fait.
Peut-être c'est plus simple aussi quand t'es déjà formé, que tu sais un peu mieux ce que t'es, justement l'algorithme à ce moment-là il va plus s'adapter à toi, versus quand tu es en formation, c'est l'inverse, c'est toi qui va t'adapter à ton algorithme.
Je pense qu'aujourd'hui c'est très dur pour les jeunes, parce qu'il y a encore le réseau social domine tellement que déjà qu'au collège, au lycée, tu devais te conformer, déjà il y avait les populaires, il y avait ceux qui étaient harcelés, donc il y avait déjà une sorte de conformité à faire et à suivre la tendance, et là avec les réseaux sociaux j'ai l'impression que ça a beaucoup été augmenté et encore plus de pression de correspondre à une certaine image, de bien connaître toutes les trends, de bien connaître tous les mots qu'il faut utiliser, que si tu le fais mal tu peux te retrouver du mauvais côté entre guillemets de la balance.
Et toi Boria, est-ce que t'as un avis là-dessus? Ça t'a déjà impacté moralement les réseaux sociaux? T'as eu une pression?
Non, je me suis jamais sentie impactée par les réseaux sociaux. Après, il faut savoir que moi, déjà, sur les réseaux, initialement, quand j'ai, que ce soit n'importe quel réseau social, j'avais vraiment très peu de personnes, en fait, j'ajoutais seulement les personnes avec qui je parlais vraiment au quotidien, dans la vraie vie déjà. Après, forcément, ça s'est un petit peu élargi au fil des années, voilà, les collègues de fac ou autres, de lycée, enfin voilà, qui des fois, ils nous demandent, on les accepte, voilà. Mais c'est vrai que, du coup, moi, je suis... on va dire les influenceurs, ça va être les influenceurs que je vais regarder encore maintenant plus trop, mais c'est sur YouTube, des vidéos YouTube. Mais sinon, sur que ce soit Snapchat, Instagram, en fait, sur Instagram, je suis quasiment abonnée à aucun influenceur. Donc, c'est vrai que j'ai pas, comme Marie disait, j'ai pas de feed avec, je vais me comparer à un tel qui est parti à tel endroit, qui a fait ci, qui a un corps de malade, qui a beaucoup de biens matériels, etc. Donc c'est vrai que j'ai pas été impactée par ça, même si je consomme beaucoup, je poste pas spécialement sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que je suis souvent sur les applications en question. Mais vu que j'ai principalement mes amis, au final, j'ai pas ressenti de problème par rapport à ça.
Oui, je vois. Et toi, Sarah, est-ce que ça t'a impacté moralement les réseaux sociaux en termes généraux ?
Je pense que pas tellement. Il y a aussi le fait que j'ai eu... c'est pas si tard que ça, mais j'ai eu des réseaux sociaux qu'à partir du lycée, et je les partageais pas forcément du coup avec mes camarades de classe, parce que comme je les ai eu plus tardivement qu'eux, y avait un truc où je les ai pas partagés quand tout le monde se les partageait, et du coup j'étais dans un truc un peu parallèle, il y a plein de gens avec qui j'étais dans scolairement, avec qui je ne parlais que par exemple par message, etc. J'ai eu un téléphone au lycée aussi. Donc je pense qu'il y a eu un truc où j'étais le plus faible mentalement et où ça aurait pu m'impacter et me modeler un peu plus. J'étais pas dans cette sphère-là de réseaux sociaux, de comparaison, de validation, etc. Ensuite, j'ai été une personne plus ou moins privée sur mes réseaux, où je montrais pas ma tête. Puis après, je l'ai remontré. Puis après, je l'ai re-enlevé. Je sais pas trop si j'avais voulu ce sentiment de validation. Je rejette pas du tout ce sentiment de dopamine quand il y a du partage, quand il y a quand ça crée un peu du trafic et que t'as des gens qui commentent, que ça crée du, j'aime beaucoup quand ça crée du débat, enfin quand j'expose un truc et qu'il y a des gens très différents et que ça crée un débat, une discussion, etc. L'aspect un peu communautaire, mais c'est vrai que étant une personne qui consomme du contenu, donc qui a toujours été plus ou moins qui avait les influences, mais c'était plus dans des vidéos plus gros format que ce qu'il y a actuellement, donc il y avait ce, un peu cette, je sais pas si c'est de l'envie parce que j'ai du mal à éprouver de la jalousie, mais ce truc de ah en vrai ça a l'air trop bien ce que fait cette personne, oui peut-être que j'ai pu l'éprouver, mais que ça m'ait vraiment impacté moralement sur ma vie et genre dans le quotidien à me dire de voir du coup comme des objectifs, je ne pense pas. Et aussi j'ai eu des aspects positifs des réseaux qui m'ont amené des trucs. Par exemple des places de concert en parlant. Anecdote très drôle, mais oui, du coup j'ai eu des trucs et j'ai du mal aussi à quand c'est pas dans ma sphère de personne privée, à voir les réseaux sociaux comme quelque chose de réel. Je sais pas si vous avez cette sensation là, mais pour moi les gens sur les réseaux, ils existent. Je ne suis pas un troll sur les réseaux sociaux. ne faut pas penser ça, mais c'est, j'arrive pas à considérer la même chose des réseaux que ce que je peux voir soit dans un documentaire ou dans les gens de la vraie vie. Enfin, pour moi, les réseaux, c'est vraiment genre une forme à part et j'arrive pas à me dire que si une personne me dit un truc mal, c'est une vraie personne qui me dit un truc mal. Genre, je sais pas, mon cerveau, il dissocie. Mm-hmm. Je sais pas si, du coup, c'est un rapport avec le fait que c'est arrivé plus tard et du coup, pour moi, ça filtre. Mais que ce soit positif ou négatif, tant qu'il n'y a pas un objet concret qui sort de cette interaction, pour moi, elle n'existe pas. Genre, elle est... C'est de l'artificiel. Je ne sais pas comment dire.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça reste, il y a une distance, cette barrière du téléphone qui n'est pas réelle. Mais en tout cas, moi, contrairement à vous toutes, les réseaux sociaux m'ont énormément impactée. Je ne sais pas si c'est parce que je les ai eus très jeune. Donc, mon premier téléphone tactile, c'était à 10 ans. Les réseaux sociaux ont suivi directement après, dans mes 10-11 ans, donc très vite exposé aux réseaux sociaux. C'était nouveau, donc on n'avait pas vraiment de sensibilisation à ça. Et il y avait toute l'énergie du corps des années 2000 qui devait être très mince. Et la couleur de peau aussi était une question, la texture des cheveux. Et ça a eu un grand impact sur toute mon adolescence, sur le vouloir de changer et se conformer à l'image de l'autre et de la personne occidentale, justement. Et ça m'a vraiment beaucoup impacté moralement. Quand je prends du recul, c'est que même maintenant, j'ai une exigence envers moi-même qui est assez importante au niveau de mon corps et même aux chiffres sur la balance. Et à chaque fois, je suis obligée de me peser et me dire mais ah non, j'ai atteint ce poids, ben non, c'est pas possible. Et c'est vraiment un truc des réseaux sociaux plus que de la vie réelle. Et pour vous dire que ça m'impacte encore maintenant moralement, même si je me détache de plus en plus. Maintenant qu'on a parlé de si ça vous a impacté moralement ou pas les réseaux sociaux, est-ce que vous vous sentez obligé maintenant d'y être? Ou vous pouvez vous retirer à tout moment sans vous sentir exclu?
Personnellement, du coup, les réseaux, je les ai mis initialement, c'était... on va dire que ce n'était pas vraiment de ma propre initiative. Par exemple, Facebook, c'est parce que j'avais une amie qui voulait que je l'installe. Comme Sarah, j'ai eu les réseaux assez tard. Et c'était pour discuter, donc elle voulait qu'on discute, donc j'ai installé. Et en fait, toutes les applications Instagram, pareil, quand je dis que j'avais très peu d'abonnés, c'est que j'avais moins de 10 personnes sur Instagram. Hein, vraiment. Parce que, voilà, comme ça, je pouvais voir ce que mes amis postaient. Snapchat, pareil, j'avais très, très... Même aujourd'hui, j'ai très, très peu de personnes sur Snapchat, parce que c'était pour les groupes. Et Snapchat, j'utilise... principalement juste pour répondre à mes messages de groupe. J'ai même pas les notifications, donc je pourrais les supprimer s'il n'y avait pas la dimension d'échange, de communication avec les autres, en fait. C'est parce que je communique sur les réseaux, donc j'en ai besoin pour communiquer, même s'il y a d'autres plateformes pour communiquer, mais c'est vrai que l'habitude fait que, voilà.
Moi, c'est pareil. Je supprime pas beaucoup pour les communications. Ben, maintenant, avec mes amis, c'est principalement via Instagram ou avec d'autres, ça serait qu'avec Messenger. Par exemple, Messenger, moi, Facebook, je veux supprimer, mais je le garde juste pour pouvoir rester dans les groupes chat et pas tout recommencer. Mais je l'utilise beaucoup pour m'informer sur ce qui se passe. Notamment en parlant en ce moment sur la Palestine, parce que les médias mainstream vont beaucoup ignorer des choses et qu'on va trouver plus d'informations sur les réseaux sociaux, bien sûr, qui sont à trier parce que les réseaux sociaux peuvent être dangereux vis-à-vis de fausses informations relayées, mais que je relaie des informations que je trouve sur la Palestine ou sur le Congo ou sur d'autres choses via les réseaux sociaux. Et maintenant, c'est devenu aussi quelque chose du coup que je veux pas supprimer pour rester informée et pouvoir faire ma part, entre guillemets, enfin un bout de ma part, en relayant ces informations. Du coup, c'est devenu aussi un critère. Mais s'il n'y avait pas eu tout ça, si tout se passait très bien dans le monde et que mes amis communiquions par SMS, je supprimerais Instagram, je pense, Twitter et tout autre.
Ouais, moi, je vous rejoins un peu. Enfin, je vous rejoins un petit peu. Je pense que j'ai la plupart de mes réseaux sociaux pour communiquer avec mes amis. Pour moi, les personnes avec qui je dois garder contact par SMS, c'est une souffrance et je sais pas pourquoi. Vraiment, c'est une corvée dans le sens où j'ai pas envie de répondre. Je sais pas pourquoi, mais quand je dois contacter quelqu'un que par SMS, je dois me forcer à me rappeler de temps en temps, ah mince, faut que j'envoie un message à cette personne-là. Alors que sur Instagram, par exemple, je suis déjà sur l'application. Donc je vais à côté, j'envoie un message et puis c'est fait. Mais récemment, en fait, je me vois devenir victime du doom scrolling. C'est comme ça que ça s'appelle? Où je rentre du travail et je m'assois sur le canapé pendant une heure minimum, juste je scrolle et je vis pas particulièrement un bon moment à ce moment-là. C'est juste j'ai besoin de me vider la tête et ça arrive de plus en plus régulièrement. Donc du coup à un moment je me suis dit bon ben je préfère quand même, si je dois consommer ce genre de vidéos, je préfère quand même consommer des vidéos long format ou à la rigueur regarder, même si c'est pas forcément hyper informatif non plus, mais regarder des streams, regarder des séries, des choses comme ça où je sais que j'aurais tiré quelque chose de ce que j'ai vu plutôt que de mon algorithme qui en plus à un moment était complètement contaminé au brain rot et autres choses que je comprenais à peine. Et du coup je me suis sentie prise en otage un petit peu du fait que bon ben j'ai ce réseau social, j'en suis devenue dépendante du coup parce que si au bout d'un moment je l'ai dans ma main, je peux cligner des yeux pendant quelques secondes, je serai sur l'application et je serai en train de scroller. Je ne sais pas comment je suis arrivée là. Et des fois même, ça fait depuis 15 minutes que je suis dessus et je ne pourrais pas vous dire ce qui s'est passé depuis 15 minutes. Juste, je suis là, je fais ça, etc. Et j'avais de le supprimer du coup. Mais bon, bah, c'est quand même l'endroit où je parle avec mes amis et je sais que par SMS, je ne voudrais pas leur parler. Du coup, je reste dessus. Et j'ai pas réglé le problème. Je suis toujours dans la discussion.
La première étape, c'est de l'avouer.
C'est déjà con. Et toi, Sarah, est-ce que tu as quelque chose par rapport à ça?
Moi, c'est très distancé. J'ai une relation amour-haine avec les réseaux sociaux. Il y a des phases de ma vie où je pense que j'ai une surconsommation des réseaux, que ce soit pour la communication ou pour poster, justement. Et je sais qu'il y a des phases où genre c'était un peu une espèce d'échappatoire quand j'étais par exemple en plein chômage, vraiment mon heure à chômage j'étais waouh, incroyable, que c'était le moment du buzz, vraiment j'avais plein d'idées de choses à faire, je faisais et en fait aussi il y a cette partie qui me pousse à faire des choses extérieures au réseau pour pouvoir pouvoir avoir des trucs à raconter dessus. Donc il y a un truc un peu toxique, ouais. Et donc quand dans ton journal, tu n'as pas envie de chercher un journal, aujourd'hui j'ai dormi. Donc
il faut faire quelque chose.
Donc voilà, mais il y a pas forcément ce sentiment de validation, j'ai pas forcément envie qu'on like mon truc, mais j'ai moi-même c'est un peu une preuve à moi-même. Et il y a aussi ce truc de doomscrolling qui a été très présent. En plus mes amis autour de la table qui pourraient témoigner et qui diraient que je pollue leur algorithme avec certains des contenus que je reposte. J'ai aussi la partie information qui est super intéressante. Moi, j'aime bien avoir du contenu vulgarisation, que ce soit historique, scientifique, etc. Mais aussi avoir des trucs totalement débiles et des mèmes à n'en plus finir. J'ai toujours le gif, je sais pas comment vous dites, mais qu'il faut pour la conversation. J'aime aussi partager, enfin, quand je consomme des médias, genre, je regarde un truc au ciné, si mes potes n'ont pas regardé, ben, je me dis, bah, il y a d'autres personnes qui pourront en parler. Et parfois, j'aime trop le truc et tout le monde le termine. Vraiment, le termine sur les réseaux. Je suis en mode, mais c'était bien. Et donc, il y a pas ce truc d'influence, mais c'est vrai que j'aime bien avoir ce truc de communauté. Et c'est difficile de me détacher. Et même si on regarde la plupart des contenus que je poste, ben c'est un truc qui soit appelle à l'interaction. Enfin, il y a un truc de vouloir
interagir.
Ouais, voilà, interagir sur un sujet concret ou un sujet qui me plaît, sur une émission, sur beaucoup trop de trucs. Mais
moi, j'ai une question.
Oui.
Est-ce que vous diriez que vous êtes plutôt sur les réseaux? Vous diriez que vous êtes plutôt un fantôme entre guillemets? Qui, par exemple, si vous êtes sur Instagram, par exemple, vous regardez un petit peu tous les commentaires, vous prenez ce que vous avez à prendre et ensuite vous partez sans jamais interagir. Oui. Ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui postait beaucoup de choses, commentait, si vous êtes sur Twitter en train de faire des débats avec des fandoms, des trucs comme ça, est-ce que vous êtes plutôt silencieux ou participatif?
Silencieux. À un moment donné, j'ai participé sur Twitter il y a quelques années. Et après, je me suis dit, plus jamais, c'est pas fou, ils sont tous chiants.
Tu as fait la guerre et tu es revenue, tu as dit plus jamais.
Elle a combattu. Moi, ça va dépendre du réseau social. Sur TikTok, je vais être un fantôme, mais sur Insta, je vais être active. Twitter X, je l'utilise pas, honnêtement. Et sur Snap, je vais être vachement active parce que je sais qu'il n'y a que des gens que je connais et je vlog un peu mes journées. Je suis ce genre de personne, oui. Absolument. La superficielle du groupe, c'est ici.
On aime. Moi, je like.
Mais oui, ça dépend du réseau social et de mon caractère. Par exemple, sur Twitch aussi, je vais faire le fantôme. Je vais juste prendre. TikTok aussi. Et Insta, c'est là où je vais être active. Voilà. Vous avez un aspect fantomatique ou pas?
Moi, je suis total fantôme sur les réseaux sociaux, à part sur le contenu de mes amis. Donc voilà, si Sarah nous inonde de contenu, je vais toujours répondre.
elle a dévoilé, moi je suis pas un fantôme. Non, je pense que ça dépend du réseau, et ça dépend de la période aussi. Il y a un moment où je vais juste consommer. En ce moment, j'étais dans une période de consommation, mais il y a un truc aussi, un autre shot de dopamine, vraiment tout pour rendre addictif. Et à chaque fois, je me dis pourquoi je suis pas rémunérée. Au bout d'un moment, il y a un truc qui s'est cassé dans ma tête et je me suis dit, au pire, tu commentes. Et ça a amené plein d'interactions super drôles. Quand t'as le super like, donc le like du créateur, t'es en mode wouhou.
Waouh, j'ai percé, il a vu ce que j'ai fait.
Et après, quand tu te retrouves avec un commentaire où il y a genre plus d'une centaine de milliers de likes, t'es en mode, faudrait me payer là, je vous divertis. Genre, il y a plein de fois avec mon grand frère, parce que mon grand frère est un fantôme des réseaux, c'est-à-dire que sa photo sur aucun réseau depuis la création des réseaux, de tous ces réseaux, mais il a des commentaires qui percent de ouf et il fait, si j'étais payé à le faire. Et voilà, non, faudrait penser à rémunérer les commentaires, franchement, parce que quand il y avait les commentaires qui avaient bugué sur TikTok, c'était plus les mêmes vidéos que sur Instagram. Quand il n'y a plus les commentaires, c'est plus les mêmes vidéos, parce que parfois t'attends même la réaction et ça rend la vidéo encore plus drôle. Donc, il y a tout un investissement sur les commentaires.
C'est quelque chose qu'on délaisse.
Oui, mais voilà. Et quand je voulais reparler pour la place de concert que j'ai eue, le dernier truc. Mais là, c'est encore aussi à la base, je le faisais, j'avais 3 likes. Vraiment, c'était vraiment moi et moi-même qui parlais toute seule. Et la Théodora, vraiment ma star, elle a vu et elle m'a dit, viens au festival, t'es invitée, vraiment... Voilà, donc parfois, se lancer, ça apporte des finalités qu'on n'espérait pas. Moi, je me suis dit, peut-être qu'elle sera en tête d'affiche, mais non, la personne directe. Après, taguer aussi les gens, faut pas harceler les gens, c'est une bonne, morale. C'est donc voilà, on a pas parlé d'harcèlement sur les réseaux, mais faut pas.
Ça pourrait faire un sujet entier.
Oui,
c'est vrai.
Et aussi, rien que de liker, je peux vous dire que qu'à chaque fois que je postais en story des photos de mes voyages, à chaque fois je revenais quelques heures plus tard avec 40 likes et ce n'était que Sarah. Et ça me faisait énormément de bien parce que je disais, il y a quelqu'un qui aime ce que je poste. Et j'étais très heureuse.
Moi aussi, j'aime beaucoup ce que tu postes, mais malheureusement, on ne voit pas tout le temps tes stories.
Oui. Et je sais que je dois penser à plus poster mes photos de ma cuisine.
Du coup, c'est un problème ça aussi. Marie, c'est quand même une personne qui est quand même assez engagée. Et le problème que j'ai constaté, moi, c'est que sur Instagram, selon les stories qu'elle poste, je les vois pas. Donc il faut que j'aille sur son profil pour voir ses stories. Et ça, c'est vraiment quand elle poste des stories sur le paysage, tout ça, pas de souci. C'est dans les premières stories qui apparaissent. Mais sinon,
la boycott de l'algorithme, voilà.
Shadow,
parce que
ma Shadowban.
Quand on est engagé, en fait, il y a plus. Mais peut-être parce que moi, j'avais eu mon petit buzz sur les réseaux, et peut-être quand je commençais à republier des trucs qui plaisaient pas, les vues elles ont bloqué. Les vues elles ont bloqué.
En tout cas, TikTok et Instagram shadowban très rapidement dès que politiquement il y a une prise de position. Inverse à la leur. Surtout inverse à la leur. Parce que quand tu cries haut et fort que t'es pour du côté droit ou extrême droit, ils sont là en mode republication. Allez, merci, bonjour. Ça va monétiser tout ça. Juste avant de terminer, de conclure cette émission, vous le prenez comment, les filles, d'être constamment disponibles dû aux réseaux sociaux? Car on peut nous envoyer des notifications à n'importe quelle heure.
Moi, avant, je le prenais très mal. Moi, je pense qu'on doit exister, on doit être énormément de personnes qui veulent vivre comme des ermites et qui sont stoppées par l'état actuel des choses. Moi, surtout, avant, je pouvais me le permettre tellement facilement de disparaître pendant les vacances, 2 semaines, mon téléphone éteint tous les soirs du moment que j'avais mon ordinateur, etc. Et on m'empêche de vivre comme ça de nos jours. Je pense que le fait d'être constamment disponible, ça, c'est côté positif. On est toujours connecté avec les personnes qu'on apprécie. On est toujours au courant quand quelque chose se passe. Même des fois, des choses... j'ai raté une information. Heureusement que j'ai un de ces 39 groupes sur lesquels je suis, avec mes collègues de travail, etc., qui vont me mettre au courant. Mais des fois, moi, j'aimerais bien disparaître, entre guillemets. Enfin, pas dans un sens alarmant, mais juste dans un sens, ce soir, j'éteins mon téléphone, je suis juste avec moi-même, etc. Mais je pense que avant, je pouvais, et maintenant, même moi, vu que j'ai pris l'habitude c'est pas quelque chose que je ferais ou que je me permettrais de faire. Et je pense qu'on est beaucoup d'ermites qui, sur Terre, qui avons besoin, en fait, de cette pause, mais qui n'arrivent pas forcément à la faire parce que, on vit tous de la même manière, j'ai l'impression.
Pas spécialement.
Ah ouais?
Parce que moi, vous pouvez demander à Sarah, je suis injoignable à partir de 21h.
Ah ouais?
Ouais, je suis en mode ne pas déranger, je ne réponds plus
pour
avant
absolument tout le monde.
Absolument tout le monde.
Oh waouh.
Je suis pas joignable, je suis en train de lire mon livre, je suis dans mon lit avec mon chat et je vous réponds le lendemain matin par contre sans problème. Mais à partir de 21h, c'est je coupe.
T'as réussi à échapper à la méta.
Ouais, je suis un ermite, j'ai réussi.
Moi, j'ai envie de le devenir, en fait, parce que moi, souvent, je réponds assez rapidement. Et en fait, ça fait de plus en plus, je vois les messages et je suis en mode résistance. Je réponds pas tout de suite.
J'ai des choses à dire à ce sujet.
tu peux parler.
Règlement de compte.
On réglera juste après. Mais il y a des messages là qui m'attendent et que ça fait 2 jours. Mais en fait, c'est comme j'ai là aussi, c'est la volonté d'être une ermite, plus ermite, et une mémoire d'élève de merde. Pardon le langage. Du coup, je n'ai pas envie. Et après, j'oublie. Et après, je me dis, flemme, j'ai plus envie de répondre. Ça fait trop longtemps.
Et un dernier mot, les filles, avant de conclure, en régie.
Oui, alors moi, pas du tout. Hein. Franchement, je suis à l'opposé de vous. Je suis pas du tout une ermite par rapport au niveau des messages. Donc, je réponds. Moi, ça me dérange pas du tout d'être disponible. Je suis souvent disponible. Et je réponds assez rapidement dans la majorité des cas, à part si je suis occupée. Mais sinon, c'est vrai que je suis très facilement joignable. Si quelqu'un, si vous avez une urgence et que vous savez que je suis disponible, vous pouvez m'appeler. Je vais répondre. 95% des cas, je vais répondre.
Je confirme. Mais moi.
Ça pose pas du tout de problème, du coup, d'être disponible.
Ça dépend de la période de ma vie. Vraiment, c'est très fluctuant. Ça dépend de... Je peux être la personne la plus disponible et la personne la moins disponible dans la même semaine. C'est très compliqué. Merci de suivre, d'ailleurs, les amis. Parce que les personnes sont cette
terre. On va appeler à Boiréal.
Je vous conseille.
Bon, en tout cas, merci à toutes d'avoir participé à cette émission de Radio Psychodébat sur le thème des réseaux sociaux et de l'image qu'on renvoie. Ça a été un thème long, en large et en travers. Je pense qu'on peut en faire 3-4 émissions sur ce sujet. Les réseaux sociaux, c'est tellement vaste, il y a tellement de choses. Et on se retrouve la semaine prochaine, normalement à 18h, jeudi prochain, excusez-moi, je perds mes mots, pour une autre émission de Psychodébat sur un autre thème qu'on choisira dans la semaine.
Oui, n'hésitez pas à voir nos réseaux sociaux pour pouvoir avoir le thème en avance et poser des questions pendant l'émission. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonne soirée. Au revoir.